Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 4 avril 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
À Kinshasa, le président Joseph Kabila a commencé hier ses consultations directes avec les signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre.
L'agence Standard & Poor's a dégradé hier la note de l'Afrique du Sud, la première économie du continent.
Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, va présider ce mois-ci une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord.
En Syrie, des dizaines de morts et de blessés après les raids aériens gouvernementaux hier sur des secteurs résidentiels des faubourgs à l'est de Damas.
En Russie, une explosion a fait 11 morts et des dizaines de blessés hier dans le métro de Saint-Pétersbourg.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a commencé hier soir des consultations directes avec les signataires de l'accord du 31 décembre, dont les discussions sur l'arrangement particulier ont échoué la semaine dernière. Objectif, trouver une issue aux deux derniers problèmes, la désignation du Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Trois des quatre délégations prévues dans le programme ont été reçues par Joseph Kabila. La première, la société civile signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, recommande un consensus autour de la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre dernier. Ensuite, l'opposition républicaine de Léon Kengouadon doit échanger avec le chef de l'État. Mais au sortir de l'audience, le président du Sénat s'est refusé à tout commentaire. Le troisième groupe à être reçu fut l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, conduite par Vital Kamerhe. Le président de l'UNC a rappelé la nécessité d'appliquer l'accord du 31 décembre pour sortir le pays de la crise actuelle, tout en soulignant que l'opposition qu'il conduit est candidate à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, poste que devait occuper le défunt Étienne Tshisekedi et qui, dans l'accord, revient au président du Conseil des sages du Rassemblement. Brillée par son absence, la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre est proche du Rassemblement qui dit n'avoir pas reçu d'invitation. Faux, rétorque le protocole d'État approché par Top Congo FM pour qui des invitations étaient envoyées à tout le monde au même moment. Ce mardi, Joseph Kabila échange avec toutes les plateformes signataires de l'accord du 31 décembre, notamment le Rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution que devait conduire la secrétaire générale Eve Bazaïba et la majorité présidentielle. C'est seulement après ces échanges que Joseph Kabila va s'adresser comme promis à la nation à travers le Parlement réuni en congrès. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement a accusé les groupes séparatistes des régions anglophones d'être derrière les incendies de bâtiments publics, dont celui du Grand Marché de Limbé. Ces destructions ont provoqué de nouveaux appels au dialogue pour mettre fin à la grève de 5 mois dans les zones anglophones. Un suspect, membre présumé d'un groupe sécessionniste, a été arrêté, d'après le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Nous reviendrons sur ces incidents dans la seconde partie de cette édition.
Au Niger, un journaliste de la chaîne de télévision indépendante Bonne Ferreille, Baba Alpha, a été écroué hier à la prison de Niamey pour faux et usage de faux en écriture en lien avec sa nationalité nigérienne. Claire Morin-Gibourg.
Le journaliste et son père ont été placés en garde à vue depuis jeudi et auditionnés hier matin au parquet qui leur a décerné un mandat de dépôt. Leur avocat, Maître Boubacar Mossi, s'est exprimé sur des chaînes de télévision privées. C'est un journaliste très critique à l'égard du régime. Apparemment, à défaut de lui trouver une faute dans le cadre de l'exercice de sa profession, on est allé trouver une faute de nature privée, a-t-il dénoncé. Selon la presse locale, Baba Alpha serait de nationalité malienne et aurait acquis la nationalité nigérienne de manière irrégulière. Baba Alpha est actuellement le secrétaire général du SINATIC, le syndicat des travailleurs de l'information et de la communication, qui, par le biais d'un communiqué, a apporté un indéfectible soutien à ce journaliste, je cite, connu pour sa droiture et son professionnalisme.
En Afrique du Sud, le grand coup de balai au sein du gouvernement fait des remous au sein du Congrès national africain, le parti au pouvoir plus que jamais divisé. L'opposition veut s'engouffrer dans la brèche pour déposer une énième motion de censure contre le président Jacob Zuma. Abdourahmane Dia.
C'est une levée de boucliers. La commission d'intégrité de l'ANC s'est dite profondément perturbée par l'absence de consultation. Le vice-président Cyril Ramaphosa a qualifié d'inacceptable le limogeage de Pravin Gordhan, le très respecté ministre des Finances. Moussi Maïmane, le leader de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a appelé aux côtés de quatre autres formations, dont les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, à l'organisation d'un vote de défiance au Parlement pour faire partir Jacob Zuma. La présidente du Parlement, Malika Mbete, rentrée en toute hâte du Bangladesh. L'ANC dispose d'une confortable majorité avec 249 sièges sur les 400 au Parlement. Monsieur Zuma a déjà survécu à plusieurs motions de défiance, mais les divisions de sa majorité pourraient rebattre les cartes. Au plan économique, l'agence Standard & Poor's a dégradé hier la note de la première économie du continent. Le rand sud-africain, depuis vendredi, a perdu beaucoup de sa valeur face au billet vert.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Russie, une explosion présentant, selon le Kremlin, tous les signes d'un attentat a fait 11 morts et des dizaines de blessés lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les autorités ont également annoncé avoir désamorcé à temps une bombe dans une autre station. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Alors que Saint-Pétersbourg, deuxième ville de la Russie, s'apprête à observer 3 jours de deuil, le président Vladimir Poutine est allé dans la soirée déposer un bouquet de fleurs rouges devant la station où s'est immobilisé le train visé. Il avait auparavant dirigé une réunion avec des représentants des services de renseignement, du FSB, des sécuristes et du ministère de l'Intérieur. Dans un nouveau bilan publié lundi soir, les services antiterroristes ont fait état de 11 morts et de 45 blessés hospitalisés. On rappelle que l'organisation État islamique avait appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie fin septembre 2015. La rame touchée par l'explosion se trouvait entre deux stations d'une ligne fréquentée qui traverse le centre de Saint-Pétersbourg. Les images diffusées par les réseaux sociaux et par les télévisions russes ont montré une rame de métro soufflée et de nombreux voyageurs tentant de sortir des victimes des décombres. L'enquête a été ouverte pour acte terroriste, a indiqué le comité d'enquête russe dans un communiqué précisant que toutes les autres pistes seraient examinées.
Un kamikaze originaire du Kyrgyzstan et l'auteur de l'attentat ont affirmé mardi les services de sécurité de cette ex-république soviétique d'Asie centrale. Il s'agirait d'un certain Abarjon Jalilov, né en 1995, a déclaré à l'AFP le porte-parole de ses services. Il est probable que le suspect a acquis la nationalité russe, a-t-il ajouté.
Pour sa part, le président Donald Trump a assuré son homologue russe Vladimir Poutine du soutien total de Washington à la réponse qu'apportera Moscou à l'attentat de Saint-Pétersbourg. Au cours d'un entretien téléphonique, M. Trump a présenté ses condoléances et condamné l'attentat. Le président Trump et le président Poutine ont convenu que le terrorisme devait être définitivement et rapidement vaincu, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rendra pour la première fois à l'ONU fin avril. Il doit présider à cette occasion une réunion du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé hier Nikki Haley, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
La réunion du Conseil de sécurité est prévue le 28 avril et elle portera sur la non-prolifération et la Corée du Nord. Pour citer l'ambassadrice Ellie, elle aura lieu opportunément après le sommet États-Unis-Chine qui démarre jeudi soir. Les États-Unis président en avril le Conseil de sécurité, donnant l'occasion à la nouvelle administration du président Donald Trump de mettre en avant ses priorités en matière de politique étrangère. En attendant, M. Trump recevra ce vendredi dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride son homologue chinois Xi Jinping. La Corée du Nord devrait figurer parmi les principaux sujets de leur discussion. Lors de son récent déplacement en Asie, M. Tillerson avait cherché à trouver une nouvelle manière de faire face à la Corée du Nord qui poursuit ses programmes nucléaires et balistiques interdits par les lois internationales. L'administration américaine se plaint régulièrement que la Chine n'en fait pas assez pour empêcher son allié nord-coréen de poursuivre ses actions. L'an dernier, Pyongyang a mené 2 essais nucléaires et plus de 20 essais de missiles balistiques. Et le président Trump menace de faire cavalier seul si Pékin ne fait rien pour aider. Rex Tillerson pourrait aussi rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'inquiète d'une éventuelle réduction des financements américains à l'ONU.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
Le projet de tarif unique de communication est désormais opérationnel dans 7 pays ouest-africains. Des millions d'utilisateurs de téléphonie mobile au Togo, Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, Mali, en Guinée et Sierra Leone ne devraient plus payer de frais supplémentaires quand ils voyagent chez leurs voisins. Toutefois, le free roaming ne s'applique qu'aux appels, pas aux données mobiles. Des dirigeants du bloc régional CEDEAO croient que l'initiative facilitera davantage l'intégration régionale, mais 8 autres pays de la sous-région demeurent pour l'heure réticents. Le rand sud-africain a encore chuté hier de près de 2% vis-à-vis du dollar et les obligations d'État se sont affaiblies. La devise continue de mal réagir au limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan, décédé par le président Jacob Zuma. Une situation qui menace de diviser son propre parti, l'ANC. Gordhan était considéré par les investisseurs comme un garant de la stabilité financière de la première économie d'Afrique. Augmentation de 20,7% de la dette extérieure de l'Égypte, atteignant 67,3 milliards de dollars fin décembre 2016. D'après le dernier rapport de la Banque centrale du pays, la dette intérieure, elle, est passée à environ 166,5 milliards de dollars. L'Égypte a lancé un programme d'austérité pour sortir son économie de la crise liée notamment aux troubles politiques et aux problèmes de sécurité.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Drissa, bonjour à tous.
Lourd verdict de la CAF contre le RCK au Burkina.
Le verdict de la Confédération africaine de football sur la bagarre à la fin du match entre le Rai Club du Kadiogo et l'USM Alger est donc tombé hier. Le coach du RCK est suspendu. Amende de 30 000 dollars contre le club burkinabé et 8 matchs, dont 4 avec sursis, à jouer à huis clos.
Hugo Brousse, convoqué par le gouvernement camerounais.
L'organisation, ou plutôt la désorganisation des Lions Indomptables, tournera-t-elle à l'affaire d'État au Cameroun? Suite à ses déclarations après la défaite face à la Guinée 2-1, mardi à Bruxelles, le sélectionneur Hugo Brousse assistera aujourd'hui à une réunion à Yaoundé convoquée par le ministre des Sports. On se souvient que le vainqueur de la CAN 2017 avait menacé de démissionner suite aux problèmes d'organisation entourant ce match.
Football côté justice et on reparle corruption à la FIFA.
L'ancien patron du football guatémaltèque, Brian Jiménez, a écopé d'une suspension à vie pour son implication dans le scandale de corruption de la FIFA. Décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique de l'instance du foot mondial. L'ancien président de la fédération guatémaltèque, âgé de 62 ans, a plaidé coupable notamment des chefs de conspiration en vue d'extorsion et de fraude en lien avec des pots de vin reçus en échange de l'octroi des droits médias et marketing portant sur des matchs de qualification de l'équipe nationale du Guatemala pour les Coupes du Monde 2018 et 2022.
Dopage, une substance interdite découverte dans les urines de sprinteurs jamaïcains de Pékin 2008.
Oui, l'agence allemande antidopage critique le CIO et l'AMA pour n'avoir pas enquêté après la découverte de clambutérol, un produit interdit dans des échantillons d'urine de sprinteurs jamaïcains lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage ont en effet reconnu avoir classé ces cas en raison de faibles dosages, attribuant cette présence de clambutérol à une probable consommation de viande contaminée. Les sprinteurs jamaïcains, on s'en souvient, emmenés par un certain Usain Bolt au sommet de son art, avaient remporté 5 médailles d'or à Pékin. Les vainqueurs du relais 4 fois 100 mètres dont Bolt ont cependant dû rendre en janvier dernier leur médaille d'or après le test positif de l'un d'entre eux, Nesta Carter. Enfin, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Un seul match, et c'était Portland et Minnesota, 109-110. L'attention était surtout retenue par le championnat universitaire de basket entre les Tar Heels de Caroline du Nord et les Bulldogs de Gonzaga. Les Tar Heels sont les nouveaux champions universitaires. Le score, 71-65.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le gouvernement accuse les groupes séparatistes dans les régions anglophones d'être derrière les incendies de bâtiments publics, dont celui du grand marché de Limbé. Ces destructions ont provoqué de nouveaux appels au dialogue pour mettre fin à la grève de 5 mois dans les zones anglophones. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu sur place. Son reportage est repris ici par Morgan Guiriac.
L'incendie du marché de Limbé, samedi, a duré 4 heures. 50 magasins ont été détruits. Un suspect, membre présumé d'un groupe sécessionniste, a été arrêté d'après le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai. Le suspect a déjà dénoncé bon nombre de ses complices et ceux qui sont liés à cet acte de terrorisme devront répondre de leurs actes. Nous voulons appeler la population du Sud-Ouest à la paix et je veux rassurer la population de Limbé. L'administration est là avec les forces de l'ordre pour les protéger. L'incendie du marché de Limbé met en évidence les dangers et l'impasse grandissante dans les deux régions anglophones du Cameroun. Des avocats et des enseignants anglophones sont en grève depuis novembre. La plupart des écoles sont fermées et les entreprises sont paralysées. Les grévistes exigent des réformes contre l'utilisation écrasante du français dans ce pays bilingue. Certains grévistes exigent un retour au fédéralisme, d'autres appellent à l'indépendance des zones anglophones. Plusieurs écoles, résidences privées, postes de police, bâtiments administratifs ont été brûlés. Ces actes n'ont pas été revendiqués. Le législateur Enor Tangjong de la région du Sud-Ouest s'est adressé à ses collègues sénateurs le 13 mars. J'aimerais souligner et fustiger l'incendie criminel qui a ravagé la faculté de médecine de l'université de Bamenda et la destruction du bloc administratif de l'école secondaire d'Akwaya. L'élite politique, les personnalités religieuses, les membres de la société civile et les chefs traditionnels ont tous rejoint le chef de l'État dans son appel au dialogue et à la paix. À l'occasion d'une visite à Bamenda, il y a 2 semaines, le Premier ministre camerounais a estimé que les incendies étaient des tentatives d'exercer une pression sur le gouvernement. En réponse, le gouvernement a coupé Internet dans les zones anglophones et procédé à de nombreuses arrestations, dont 3 leaders accusés d'être liés aux violences. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort, selon la loi antiterroriste du Cameroun. Les négociations pour mettre fin à la grève ont échoué lorsque l'État a refusé de relâcher les détenus. Le député Joseph Banadzem du SDF, parti principal d'opposition, appelle à un compromis. Le gouvernement et les grévistes devraient revenir à la table des négociations. L'une des conditions est la libération de ceux qui négociaient avec le gouvernement et qui ont été arrêtés et amenés à Yaoundé. La peine n'a pas de prix. On devrait pouvoir les amnistier, libérer ces personnes et laisser les écoles ouvrir. À plusieurs reprises, le président Paul Biya s'est dit ouvert au dialogue, mais n'était pas prêt à libérer les suspects ni ouvrir des discussions qui remettraient en cause l'unité nationale du Cameroun.
Au Congo-Brazzaville, il y a exactement 1 an, le 4 avril 2016, les quartiers de Bakongo et de Makelekele avaient été secoués par une longue nuit de tirs d'armes alors que les populations attendaient les résultats de l'élection présidentielle. Ces violences se sont ensuite poursuivies dans le pool entre les éléments de la force publique et les ninjas du pasteur Ntumi. Une année après, les civils continuent de fuir le pool et les acteurs politiques restent divisés sur le règlement de cette crise. De Brazzaville, notre correspondant Gwela Ngusu.
Au lendemain de ces violents incidents, les autorités avaient désigné l'instigateur, le pasteur Ntumi, le chef de la milice ninja. Une année après, le discours du ministre de la Justice, Pierre Mabiala, n'a pas changé.
C'est Ntumi qui a provoqué cette situation. Et toutes nos sœurs, tous nos frères du pool, épris de paix, sont en difficulté aujourd'hui. Situation de déplacés. Entassés à Kinkala. D'autres ici à Brazzaville, d'autres isolés dans des hameaux.
Membre de la majorité présidentielle, Didier Clotaire-Boutindi a constaté que les stigmates de ce triste 4 avril sont toujours sur les bâtiments publics de Bas-Congo et Makelekele, incendiés ce jour-là. Pressenti candidat aux prochaines législatives à Gomatété dans le Pool, Didier Boutindi appelle le pasteur Ntumi à sortir des bois et à venir dire sa part de vérité devant la justice.
Ce que les nids ont brûlé, c'est pas conçu, allez voir. Hein, les PSP sont là, brûlés, tout ça là. C'est pas construit. Donc il faut que mes frères de poule comprennent qu'on ne détruit pas ce qu'on a construit. Si M. Ntumi ne se reproche de rien, s'il se dit qu'il est innocent de ce qui se passe dans le poule, donc il n'a qu'à venir à la justice. Il n'a qu'à demander la couverture des hommes d'église, la compagnie ou bien la Croix-Rouge. Mais le fait qu'il ne veut pas venir, le fait qu'il s'oppose à la force publique, cela signifie qu'il se reproche de quelque chose.
L'opposant Paul-Marie Pouélé avait, il y a une année, tenté un rapprochement entre la force publique et les ninjas. Aujourd'hui, il en tire les leçons.
Que le gouvernement comprenne que le pasteur Ntumi donne sa version des faits et si cela ne se fait pas, le gouvernement n'arrive pas non plus militairement à terminer cette situation. Vous voyez que nous sommes en train d'approcher les élections. Comment ça va se passer dans le pool? On ne leur demande pas de faire des négociations comme en 99. On leur demande simplement de pouvoir accorder au pasteur Ntumi la possibilité de venir s'expliquer. Et chacun dans l'opinion se fera une idée de ce qui s'est passé réellement le 4 avril.
Dans le pool, les villages continuent de se vider. Les populations arrivent toujours à Brazzaville. Gaspard Mianantima et son association les recensent en vue d'une éventuelle aide humanitaire.
Un nombre qui va environner 1000 ou peut-être 2000, hein. Ça c'est sûr. Au rythme où nous recevons les gens, effectivement, notre étonnement est grand. Pourquoi le gouvernement a pris tout son temps là à observer le silence autour de lui des gens qui crient? Et c'est une sanction, une persécution. Qu'est-ce qui ne va pas alors que la population avait exercé son droit de vote?
Une année après ces violences du 4 avril, les militaires et les policiers poursuivent leur chasse contre Ntumi et ses hommes, les autorités ayant refusé toute négociation avec celui qu'elles qualifient de terroriste. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Sénégal, les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar vont participer à leur 42e fête de l'indépendance. L'occasion, nous dit notre correspondant Seydina Abagay, de revenir sur l'histoire de ces majorettes qui fascinent les foules chaque 4 avril au rythme des tambours africains.
Des majorettes à la fête de l'indépendance, l'idée est venue du célèbre tambour-major sénégalais Doudou Ndiaye Rose. Yamed Djemi Djidou explique la genèse des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar qu'elle encadre depuis plus de 30 ans.
Doudou, comme il a beaucoup voyagé, une fois il a été à Paris, son séjour a coïncidé avec le 14 juillet. Donc il se disait qu'en voyant les majorettes de la France défiler, puisque c'est un artiste en tambour-major, il se disait, mais tiens, c'est des jeunes filles, pourquoi pas chez nous? Bon, ça c'est le style européen, mais nous on peut l'africaniser. Ce sont les questions qui se posaient. À son retour au Sénégal, il a tout fait pour essayer de voir où est-ce qu'il doit se diriger pour essayer d'intégrer la chose. Et l'idée lui est venue en tête de s'adresser au lycée John Fitzgerald Kennedy.
Ce fut le début de la merveilleuse histoire de ces majorettes qui chaque année illuminent et égayent la fête d'indépendance du Sénégal. Ces filles sont sélectionnées parmi la crème de leur établissement.
Les majorettes sont choisies à la base de leur disponibilité d'abord et de capacité intellectuelle et de leur capacité physique et aussi par l'obtention de l'autorisation parentale. C'est parmi les meilleurs élèves de ce lycée qui se présentent et désirent l'être, ce sont elles qu'on choisit. Et ensuite, il faut que cette élève-là non seulement soit travailleuse, mais
physiquement et sur le plan sanitaire, que ce soit une élève qui a la bonne condition physique, qui n'est pas dispensée à l'EPS.
Malgré la rigueur de la sélection, les jeunes filles du lycée John Fitzgerald Kennedy se bousculent toujours pour être parmi les majorettes. Aïcha Elisabeth Sarr explique leur motivation.
Quand je regardais les chorégraphes et tout, je me disais que pourquoi pas. Et j'avais la main, alors je me suis dit je peux être majorette. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai demandé à Madame Diet si je pouvais en faire partie. Elle m'a demandé d'amener mon bulletin et c'est comme ça que je suis devenue majorette.
Aïcha, élève en classe de seconde S, a été choisie capitaine pour son bac du feu avec les majorettes. Elle affiche une fierté totale à la veille de sa première prestation.
Pour l'intégration des majorettes, c'est un bonheur. Donc maintenant, pour être la capitaine, je suis fière d'être une capitaine parce que c'est pas facile d'être une nouvelle débutante et devenir une capitaine. C'est pas vraiment facile, donc je peux dire que je suis fière.
Présente dans le défilé depuis 1975, les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar font aujourd'hui partie intégrante du décor de la fête d'indépendance du Sénégal. Elles sont devenues l'une des principales attractions du 4 avril à travers des prestations colorées et des pas de danse rythmées par les tam-tams de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Sédina Bagueye à Dakar pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Après 4 ans de relations tendues avec l'administration Obama, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré hier à Washington son homologue américain Donald Trump, qui, contrairement à son prédécesseur, ne cache pas son admiration pour l'Égyptien. Les deux hommes souhaitent donner un nouvel élan aux relations entre leurs deux pays. Salwa Jafari a contacté Sébastien Gorka, un conseiller du président Trump.
The most important issues concern the new president and the new White House's attitude to the threat.
Les questions les plus importantes concernent le nouveau président, la nouvelle attitude de la Maison-Blanche vis-à-vis de la menace d'un terrorisme islamiste radical, en particulier le groupe État islamique. L'Égypte souffre d'une violence terroriste liée à Daesh. Le groupe Bayt al-Maqdisi, très actif au Sinaï, est une filiale de Daesh. Et les actions de la nouvelle administration, axées sur la reconstruction de relations saines avec les nations clés de la région et l'Égypte, qui est la nation arabe la plus peuplée au monde, sont importantes.
L'ancien locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, témoignait peu d'égards envers Sisi. L'aide militaire américaine de 1,3 milliard de dollars par an avait même été temporairement suspendu. Aujourd'hui, le président Trump menace de réduire les aides internationales. Va-t-il faire une exception à votre avis?
I'm not going to comment on concrete figures. I'm not a spokesman for the president or for the National Security Council.
Je ne veux pas commenter sur les chiffres concrets. Je ne suis pas un porte-parole du président ou du Conseil de sécurité nationale, mais nous savons que l'aide doit être beaucoup plus rationnellement programmée qu'elle ne l'a été au cours des 8 dernières années. L'administration Obama a causé de grands désagréments au gouvernement du président Sisi, qui faisait face à une menace croissante. Donc, je ne veux pas parler de montants en dollars, mais je peux vous garantir que notre relation avec le Caire sera beaucoup plus forte que pendant les années d'Obama.
Autre dossier, celui des droits de l'homme et le sort d'une vingtaine d'Américains qui purgent des peines dans des prisons égyptiennes. Cela va-t-il être utilisé comme monnaie d'échange?
Contrairement à l'administration Obama, nous ne partageons pas les approches de négociation à l'avance. Nous ne révélons pas nos stratégies avant de les déployer. Ça ne serait pas juste de faire des commentaires. Mais je soulignerai que le sort des citoyens américains partout dans le monde, en dehors des États-Unis, nous préoccupe beaucoup. C'est tout ce que je suis prêt à dire en ce moment.
That's all I'm prepared to say at this moment.
C'était Sébastien Gorka, un conseiller du président Trump.
VOA Afrique,
vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.